Salut Clément, tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire les voix du digital learning. C'est une émission un petit peu particulière.
C'est vrai, tu peux me la présenter parce que c'est bizarre. Il me semblait que tous les mois, tu oubliais un petit peu le nom de cette série spéciale. Tu peux nous rappeler un petit peu le concept peut-être?
C'est vrai, mais là, je me suis entraîné. Eh bien, aujourd'hui, nous avons un invité qui va nous parler de quelque chose de très intéressant. On va parler du transfert des acquis de la formation.
Ok.
D'accord. Et cet invité, c'est Théo Rode. Théo, qui es-tu? Peux-tu te présenter?
Salut Olivier, salut Clément. Bah, je suis déjà super content d'être à vos micros. Ça fait longtemps que j'attends ça, on en avait parlé depuis quelques temps. Donc ravi d'être là. Qui je suis? Donc Théo Rode, j'ai 26 ans, je suis passionné par la pédagogie, la formation continue, apprentissage des adultes et plus globalement par le développement des personnes au sens large.
Et Clément, tu peux peut-être nous dire où on a rencontré Théo?
Ouais, on l'a rencontré dans un événement qui s'appelle les Apéros Pédago, que je co-organise avec Olivia, qui je fais un petit coucou. Et donc, c'est vrai qu'on s'est rencontré la première fois là-bas, lors d'un apéro pédago auquel tu es venu. Le premier du nom, je crois, si je ne m'abuse.
Ouais, c'était en octobre,
ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, le 1 ou 2, je crois. Et donc, en effet, on s'est croisés à ce moment-là. Et puis, on a tout de suite accroché. Et puis, on s'est dit, bah, tiens, ce serait intéressant de faire venir Théo à nos micros.
Parce que c'est vrai que tu es un vrai passionné de la formation. Ouais. Et on l'a vu tout de suite. On l'a entendu tout de suite. Alors, Théo, tu travailles où?
Alors, je suis chargé de formation à L'Oréal. Donc, dans les équipes learning et développement depuis un peu plus de 2 ans. Et je suis aussi membre de l'association Sol France depuis un peu plus de 3 ans. Donc c'est ce qui a alimenté la partie recherche en sciences de l'éducation dans mon parcours, on va dire.
C'est quoi Sol France, Théo?
On va en parler, mais avant, j'en profite pour préciser quelque chose. C'est que durant ce podcast, toutes les déclarations, les opinions que je vais partager, je parle en mon nom. Elles seront strictement les miennes. Je ne parle pas au nom de L'Oréal ni de la stratégie de L'Oréal en matière de learning et développement. Voilà, je préférais que ce soit clair dès le début, avant d'aller plus loin, et aussi pour nos auditeurs, que ça soit clair, on ne va pas parler de la stratégie ou de l'approche L'Oréal en matière de learning et développement. Voilà, fin du petit aparté.
Mais là, on important. Parle avec Théo Rode.
C'est pas avec L'Oréal, c'est ça. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, c'est vraiment toi le passionné de la formation. Je reviens à ma question quand même.
Ouais,
Théo, tu m'y échapperas pas.
Échapper, ouais.
Qu'est-ce que c'est Sol France?
Qu'est-ce que c'est Sol France? Eh bien, très bonne question. Déjà, Sol, au niveau de l'acronyme, ça signifie Society for Organizational Learning. Donc, Société pour l'organisation apprenante, pardon, quand on traduit en français. C'est une association qui a été fondée en 1999, issue d'une branche du MIT de Boston, donc ADN Recherche. Et donc je disais, c'est une association, mais dans les faits, Sol France, ça prend la forme, je dirais, d'un réseau, d'un collectif de personnes qui sont engagées et qui travaillent donc sur la mise en œuvre, la diffusion et l'amélioration continue des pratiques de l'organisation apprenante dans la société et dans les différents types de structures. Aussi bien des entreprises, des organismes publics, des écoles, voilà. Au service de quoi on fait tout ça? Déjà, au service du développement de la performance des organisations, d'une performance un peu plus pérenne, et au service aussi du développement des personnes qui composent ces organisations. Voilà.
Donc, vous l'avez compris? En fait, avec Théo, on va avoir une discussion super intéressante et vous allez voir que derrière ce que Théo va dire, contrairement à d'autres personnes, il y a beaucoup de lectures, de papiers de recherche et c'est très appuyé. C'est ce qui nous a beaucoup plu, hein, Clément.
Bah oui, nos petits esprits scientifiques de base d'ingénieurs sur lesquels on s'appuie aussi sur des recherches et des choses comme ça, on aime bien. Donc c'est vrai que quand on a parlé la première fois avec Théo, c'est intéressant d'avoir en effet des gens qui sourcent et qui réfléchissent en comparant finalement ce qui a été écrit déjà dans la littérature et qui aussi participe à l'écriture de choses un peu plus avancées pour le futur, quoi. Donc c'est toujours intéressant.
Et on va voir dans la discussion, hein, tu nous as dit Théo, je pourrais vous donner les sources,
ouais,
quand j'en citerai, et on va pouvoir mettre ça sur le site. Donc ça, c'est une démarche qui nous plaît beaucoup. Théo, tu sais que quand on vient dans cette jungle, la jungle de rendez-vous en terre digitale, il y a toujours quand même une petite tradition, c'est de choisir un animal. T'as choisi quoi comme animal?
Et oui, alors écoute Olivier, aujourd'hui on va parler recherche. Peut-être que c'est pas étonnant, mais j'ai choisi la chouette. Donc la chouette parce qu'on est sur un domaine académique, on va s'entourer de plein de bouquins, d'études, de chercheurs. Et bah, quoi de mieux pour parler de tout ça que la chouette, je me suis dit. La chouette, elle est en général assez studieuse, assez curieuse. Il y a une certaine soif de savoir et de recherche. Et je crois en plus que c'est un animal que vous n'aviez pas encore eu dans votre jungle, si je ne me trompe pas.
Ce que j'allais dire, tu es la première chouette de Rendez-vous en Terre Digitale. Félicitations.
Et
On a
bah, c'est
eu
pas
12
un honneur.
caméléons, mais on n'a pas encore de chouette.
Faut dire qu'une chouette dans la jungle, ça doit être rare, mais on a beaucoup
Ouais.
d'animaux très spéciaux dans cette jungle. J'aime bien,
J'avais pas
j'aime bien.
pensé, mais ouais.
Ouais, non, mais c'est très très bien. Et j'aime bien parce que finalement, ça te décrit très très bien, cette chouette.
C'est pas faux, ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est finalement le transfert des acquis en formation, mais on va aussi parler de la recherche au service de l'engagement des apprenants. Hein, on va un peu diviser notre discussion autour de ça. Et est-ce que tu veux apporter des choses là sur ces deux parties dont on va parler?
Tout à fait. Donc, comme je vous disais, on ne va pas parler de L'Oréal. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment sous l'angle de la recherche en sciences de l'éducation. Et plus précisément, eh ben, qu'est-ce que la recherche, elle peut apporter pour améliorer l'engagement des apprenants et améliorer ce qu'on appelle le transfert des acquis en situation de travail. On va commencer par évoquer pourquoi c'est important aujourd'hui de travailler sur le transfert des acquis. Et je présenterai aussi un certain nombre d'idées de bonnes pratiques sur le sujet, des bonnes pratiques qui sont ben voilà, éprouvées aussi bien par la recherche que par les praticiens.
Théo, si on commence, c'est quoi ta vision à toi hein, aujourd'hui de la formation professionnelle et ça a été quoi les grandes évolutions ces dernières années? Alors évidemment, on va penser peut-être
Ouais.
Covid ou digitalisation parce qu'il y a eu ce mouvement qui est arrivé à ce moment-là. Voilà, c'est quoi ton regard à toi, à Théo?
Ouais, alors c'est une question qui est vaste, mais en même temps qui est importante et sur laquelle il faut se pencher. Bah, moi, au niveau de la veille que j'ai pu faire sur ces sujets, donc je regarde tout ce qui se passe avec pas mal d'intérêt et de curiosité. Je trouve que la formation, elle vit une période qui est hyper intéressante, marquée par des évolutions qui sont hyper intéressantes, rapides et aussi très structurelles. Et donc je vois trois grandes dynamiques d'évolution, je dirais, dans la formation professionnelle aujourd'hui. Déjà, les évolutions dans la formation, elles sont la résultante bah, de toutes les transformations un peu plus globales qu'on a eues ces dernières années, que ce soit au niveau sociétal, niveau économique, technologique. Le Covid est passé par là, comme tu as dit, Olivier. Deuxième grande dynamique, je dirais, c'est que ces évolutions, elles font bah, que le rôle du service formation ou learning et développement, il est aujourd'hui devenu bah, très stratégique, plus stratégique que jamais, même dans les organisations. Et enfin, troisième dynamique dont je vais vous parler et décrire un peu plus, c'est que bah, toutes ces transformations, elles remettent l'efficacité pédagogique au cœur des actions de formation. Et quand je dis efficacité pédagogique, je parle du fait de l'enjeu de construire des actions de formation qui mettent l'accent sur le fameux transfert des acquis en situation de travail. Donc voilà, le gros sujet du podcast dont on aura l'occasion de parler un peu.
Alors attention, parce qu'on n'a pas toute une nuit dans la jungle, hein, Théo. Donc, première dynamique, c'est l'évolution sociétale.
Ouais.
Alors, si tu nous fais un résumé de cette première dynamique qui a changé finalement la formation professionnelle.
Alors, cette première dynamique, on sait que voilà, ces dernières années, les transformations, elles sont de plus en plus systémiques, elles ont lieu en continu. On dit que le changement, c'est devenu la nouvelle norme en quelque sorte. On sait aussi que voilà, les métiers, ils se transforment de plus en plus vite, la durée de vie des compétences, de plus en plus courte. D'où la nécessité, face à ces changements, de s'adapter plus que jamais, de chercher à innover et aussi d'apprendre. Apprendre maintenant plus que jamais. Donc, toutes ces évolutions sociétales, elles ont amené, et finalement, elles amènent encore aujourd'hui, à repenser nos manières d'apprendre efficacement. Et qui dit repenser nos manières d'apprendre, dit aussi repenser le système de formation lui-même.
Mais Théo, est-ce que tu penses que la formation a encore une place là-dedans? Parce que quand je vois que, est-ce qu'on apprend encore par des formations?
Et bah, c'est en effet une question très intéressante. On voit en fait qu'aujourd'hui, le fait de dispenser uniquement des formations en classe, de manière instituée classique, bah, ça suffit plus pour permettre aux collaborateurs d'apprendre à la vitesse du changement finalement. Donc aujourd'hui, je dirais pas qu'il faut déconstruire le système formation. Il évolue avec le temps et avec les transformations. Mais en tout cas, il faut penser les formations en termes de parcours continu, sur le temps long avec de la multimodalité. Apprendre en fait en dehors des seuls temps de formation institués, ça devient clé pour apprendre à la vitesse du changement. Il faut aussi embrasser toutes les dynamiques d'apprentissage informel qui s'offrent à nous, aux responsables et professionnels de la formation. Donc l'enjeu notamment de maximiser les opportunités pour apprendre en situation de travail, avec ses pairs, de manière sociale, en réseau, donc avec son équipe, mais aussi en dehors de son équipe. Voilà, on voit que les manières d'apprendre et l'enjeu d'apprendre un peu différemment, plus à la vitesse du changement, c'est quelque chose qui est mis sur la table dans les enjeux des services learning et développement aujourd'hui.
D'autant plus, je trouve, avec les générations nouvelles un peu qui arrivent aussi. Est-ce qu'il y a un regard un petit peu différent justement sur cette façon dont tu parles en gros d'apprendre à apprendre, quoi. Moi, je trouve que les générations qui arrivent, là, elles ont une façon de consommer la formation qui est différente. Moi, le premier, je me forme sur YouTube. Enfin, j'apprends des choses finalement de manière, tu parlais de formation informelle, de manière en dehors, on va dire, des parcours classiques de formation. Est-ce que ça, finalement, et ça va peut-être rejoindre un petit peu la deuxième dynamique qui est plutôt le rôle du service L&D dans les entreprises notamment, mais est-ce que ça a un impact finalement sur la façon dont justement ces services doivent dispenser de la formation?
Ouais, alors, tu as raison Clément, le rapport au savoir, il a beaucoup évolué depuis ces dernières années. Et c'est pour ça aussi que finalement, on doit, je trouve, en tant que professionnel de la formation, développer des actions de formation qui permettent aux collaborateurs d'apprendre, mais surtout, et c'est là que je pense la différence, la valeur ajoutée va se faire, surtout qui permettent aux collaborateurs d'apprendre avec un accompagnement dans la mise en pratique concrète. Parce qu'on le sait, on n'a jamais eu autant de connaissances et de contenus d'apprentissage en libre accès qu'aujourd'hui. Mmh. Tu parlais de YouTube, tu parlais de Google, il y a des MOOC, il y a les intelligences artificielles aujourd'hui. On est un peu dans une ère d'infobésité.
Oui, j'allais dire. Ouais.
Et cette infobésité, elle s'applique aussi au monde de la formation. Et en situation d'infobésité, dans les propositions de solutions qu'on a en tant qu'apprenant, on peut décrocher. Ce qui rejoint ce que je disais, voilà, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, les formateurs, les personnes qui vont être en charge de ces contenus, ils sont plus là en fait pour uniquement apporter du savoir. Ça, sur YouTube, Google, on a accès à ce savoir. Mais l'enjeu pour les formateurs, et ça répond, je pense, aussi aux besoins, aux attentes des nouvelles générations, les formateurs, ils doivent être là pour accompagner et guider l'apprenant, en quelque sorte, à traduire les connaissances et les apports de la formation dans sa réalité concrète, en situation de travail. Pas juste pour transmettre du savoir de manière descendante. C'est un peu, moi, ce que je vois et l'intuition que j'ai par rapport à la situation aujourd'hui.
Il y a un vrai changement de posture, finalement, du formateur. Hein. On en parle beaucoup depuis quelques années de ça, ce passage, finalement, du sachant à plutôt l'accompagnant, l'aidant, et qui fait en sorte que, justement, cette transposabilité des savoirs pour monter en compétence sur certaines choses, elle soit efficace, quoi.
Exactement.
OK.
Et ça rejoint, en fait, j'ai parlé de ma troisième tendance là, maintenant, mais ça rejoint, du coup, une des trois tendances dont je vous parlais, c'est que, avec tout ça, Le rôle des services learning et développement, il n'a jamais été stratégique et important qu'aujourd'hui. Important déjà pour accompagner les transformations des organisations et important aussi pour accompagner les collaborateurs, pour les outiller et leur permettre d'apprendre à la vitesse du changement, comme je disais. Et pour éclairer ça, on a une première étude. Voilà, ça y est, on rentre dans le dur de la recherche.
Il nous l'avait promis. Première étude. Vas-y, Théo. Ouais.
Première étude. Donc c'est le rapport annuel qui est fait par LinkedIn Learning Workplace. Oui. C'était le rapport qui a été fait en 2021, dans laquelle on montrait qu'en mars 2020, la formation professionnelle était une priorité pour 24% des dirigeants.
D'accord.
Et en mars 2021, donc un an après, la formation professionnelle était devenue une priorité pour 68% des dirigeants. Donc, c'est, je trouve, assez édifiant. Le Covid est passé par là, vous l'aurez remarqué. Mais c'est intéressant parce que, voilà, on le sait, le Covid, il a catalysé un certain nombre de changements qui étaient jusque-là un peu des lames de fond. Il y a le learning et development, mais pas que. Il y a l'impact du digital. Mais voilà, en tout cas, cette étude, elle est intéressante et elle est révélatrice, en fait, de cette tendance qui est vraiment continue depuis plusieurs années, de l'importance croissante du learning et development dans les comités de direction RH et même COMEX plus globaux.
Alors, je pense, Théo, pour que la formation, finalement, devienne vraiment ce pivot dont tu parles, il faut que le transfert entre ce qu'on apprend pendant la formation et ce qui se passe après, le fameux transfert des acquis, en situation de travail, il faut que ce soit efficace. Est-ce que dans ce que tu as lu, dans ce que tu sais, finalement, comment on fait pour que ce transfert des acquis soit efficace ? Et peut-être même, j'ai une question avant, c'est quoi le transfert des acquis, si tu lui as donné une définition, Théo ?
Ouais, tu fais bien de le rappeler, Olivier, parce qu'on parle du transfert des acquis depuis tout à l'heure, mais c'est important, surtout en recherche, de donner des définitions et des définitions claires sur lesquelles on s'accorde. Donc, le transfert des acquis, ça correspond tout simplement, j'ai envie de dire, au niveau de transfert des apprentissages de la situation de formation à la situation de travail des apprenants. Autrement dit, quand on s'intéresse au transfert des acquis, on va se questionner sur est-ce que les apprenants ont réussi ou pas à mettre en pratique le contenu de la formation une fois revenus en situation de travail. Voilà, c'est ça le transfert des acquis.
Alors, des trucs, astuces pour finalement avoir un transfert des acquis efficace. Comment on fait ?
Comment on fait ? Je pense déjà, ça part de la manière dont on pose nos attentes sur la formation. Et là-dessus, il y a un éclairage recherche qui est assez intéressant, qui est celui du consultant et chercheur Jonathan Potier, lorsqu'il distingue en fait formation de qualité et formation efficace. On va voir que ça change toute la donne sur la façon dont on va relier à l'enjeu du transfert des acquis en situation de travail. Rapidement, pour expliquer cette distinction, donc Jonathan Potier, il utilise un modèle que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est le modèle de Kirkpatrick.
Sur les évaluations.
C'est un modèle qui...
Exactement. Avec les quatre niveaux pour l'évaluation.
Les quatre niveaux, ouais. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous renvoie au livre de Jonathan Potier qu'on mettra dans les références, qui est top. En tout cas, donc Jonathan Potier utilise cet éclairage de recherche pour distinguer donc, les formations de qualité, c'est-à-dire une formation dans laquelle l'apprenant a été satisfait. Là, c'est du niveau 1 de Kirkpatrick. Et l'apprenant, il aura même appris des choses. Super, niveau 2 de Kirkpatrick. Mais l'apprenant, il ne va pas s'en servir en situation de travail.
Ok, niveau 3 de Kirkpatrick.
Donc, formation de qualité. Exactement. Donc là, on est sur une formation de qualité. C'est un bon produit, mais pas efficace parce qu'il n'a pas été utilisé par l'apprenant en situation de travail. Et là, où ça va être intéressant, c'est la distinction avec la formation efficace dans laquelle l'apprenant, comme tu disais Olivier, là, il a pu mettre en pratique de nouveaux comportements en situation de travail. Donc, on est sur le niveau 3 de Kirkpatrick. Et idéalement aussi, l'apprenant, grâce à la formation, il a pu obtenir de meilleurs résultats et une meilleure performance. Là, c'est super, c'est le niveau 4, mais c'est encore un peu plus dur à atteindre. Et en tout cas, alors tu vois, tu me demandais pourquoi cette distinction, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle nous permet d'avoir un regard critique sur qu'est-ce qui est important qu'une formation donne aux apprenants. On se rend compte que, aussi qualitatif que soit le temps de formation en classe, si derrière on n'élabore pas une approche pédagogique qui est solide avec des temps engageants avant et après la formation, on passe en fait à côté d'une grosse partie du potentiel de transfert en situation de travail de nos formations. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une approche formation en trois temps pour maximiser le potentiel de transfert des acquis de nos actions de formation.
C'est super intéressant ce que tu dis, et moi ça me fait aussi penser à plein d'organismes de formation dont je tairai les noms qui font justement ces trois temps de avant, pendant, après, et ce après est un peu dédié finalement à la à l'ancrage en partie et puis aussi à la transposabilité, le fait justement de pouvoir mettre ses savoirs au service de l'entreprise. Et quand tu parles avec des personnes qui travaillent qui mettent ces systèmes en place, là, ils remontent toujours des difficultés justement on va en parler après, à engager les apprenants justement dans cette transposition finalement des savoirs qui ont été acquis vers de la compétence mise au service de l'entreprise derrière, quoi. Et voilà, ça fait des années que j'entends ça et que je me dis, c'est vrai que c'est comment on fait, quoi, concrètement. Donc là, bien sûr, après, on va en parler dans cette approche formation en trois temps, et je pense que ça va être super intéressant d'en discuter avec toi et d'avoir aussi ces aspects recherche, parce que c'est une vraie difficulté. Et en effet, comme tu dis, tu peux faire la plus belle formation du monde et la plus agréable et la meilleure du monde avec les meilleurs formateurs du monde. Si derrière, c'est pas efficient ou efficace et que tu vas pas sur une transposabilité, voilà. Donc, hâte de savoir ce que tu vas nous dire sur cette approche en formation en trois temps.
Ouais, je peux que être plus que d'accord avec toi, Clément. Et pour en dire un peu plus, l'approche formation en trois temps, c'est tout simplement une approche où on va construire une expérience pour l'apprenant avec des activités avant, pendant et après la session de formation. là encore, qu'est-ce que nous apporte la recherche? Je vais reprendre une terminologie de Jonathan Potier, encore lui. il dit quelque chose d'intéressant, c'est que finalement, avec une approche formation en trois temps, l'action de formation, ça sera plus un simple événement, donc plus uniquement un temps en salle de formation et puis basta, mais ça sera vraiment un processus dans la durée, donc un processus parce que ça inclut un vrai travail sur le temps de préparation des apprenants, l'avant, un travail sur le temps avec le formateur, le pendant, et un travail sur le temps après la session de formation.
Et si on regarde, si on prend les trois temps un par un, d'accord, on prend l'avant, ça consiste en quoi? Moi, j'imagine que c'est là où on demande aux apprenants de se présenter, des choses comme ça, mais est-ce que ça va plus loin que ça?
Oui, alors, ça va plus loin, tout à fait. Y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Avant, j'ai peut-être envie, si vous le voulez bien, Olivier Clément, de vous parler d'une recherche qui est super structurante là-dessus et qui donne beaucoup de matière, en fait, à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une approche comme ça et surtout comment il pourrait la vendre auprès de son mancom, de sa direction. En fait, je pense que c'est important, avant d'entrer dans le détail, on va le faire. C'est une étude de Robert Brinkerhoff qu'il a faite en 2006. Je vous épargne mon accent français parce que c'est un ouvrage anglais, donc on le mettra dans les docs de référence. En tout cas, ce chercheur, il a mis à jour le fait que concentrer ses efforts et ses ressources sur la seule action de formation, ça permettrait qu'à seulement 15% des apprenants de transférer les acquis en situation de travail.
Si tu fais que du pendant, il dit que 15% okay, des apprenants vont le transférer derrière.
Ouais, c'est ça.
Okay. C'est...
Ça peut faire un peu peur, mais pas de panique. Pas de panique, pourquoi? Parce que on a l'approche en trois temps. Et on va pouvoir déjouer ça. Mais en tout cas, c'est super intéressant parce que voilà, c'est un peu la question à 1 million de dollars pour les services formation, se dire voilà, quel est le ROE, le retour sur les attentes de la formation. Et de manière très pragmatique aussi, une organisation, en fait, elle se dit lorsqu'elle investit dans la formation de ses collaborateurs, son but, c'est pas tant que les collaborateurs, ils apprennent des choses, mais c'est que vraiment les collaborateurs, ils apprennent des choses pour pouvoir les mettre en pratique concrètement dans leur travail pour être plus performants. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, il y a, voilà, très rapidement, il y a quelques exceptions. On ne va pas être obligé de mettre cette approche formation en trois temps pour toutes les formations du catalogue d'une entreprise. Il y a des exceptions et c'est bien de centrer son énergie sur peut-être au début les plus importantes. En tout cas, tout ce qui est formation sur de type onboarding, sur l'intégration des collaborateurs, où là, on vise plus à renforcer la cohésion autour de la culture du groupe, ce n'est pas nécessaire d'avoir cette approche en trois temps. Et je dirais que c'est un peu la même chose aussi pour les contenus qui visent plus une première sensibilisation à des sujets. Là, en fait, on ne va pas rentrer dans du transfert des acquis parce que ce n'est pas le but. Si on a des petites sessions de demi-journée pour s'acculturer au langage de l'intelligence artificielle, par exemple, on ne va pas pouvoir attendre de l'apprenant qu'il aille mettre en pratique, qu'il développe des comportements. Donc attention aussi à ne pas vouloir tout transformer avec l'approche en trois temps. Mais en tout cas, c'est intéressant. Voilà.
Théo, je vois le temps qui tourne et il est hors de question
aïe, aïe, aïe.
Qu'on ne rentre pas dans ces trois temps. Je vais dire pourquoi c'est important, parce que moi, c'est ce que j'appelle la méthode APA,
ouais.
D'accord ? Et que je ne savais pas qu'il y avait autant de science derrière cette méthode et autant de chiffres. D'accord ? Donc, je trouve ça très important et je ne te laisserai pas partir avant que
non,
tu...
Je partirai pas.
Très bien. Avant qu'on regarde ce avant, ce pendant et ce après.
Ouais.
Parce que moi, je veux augmenter ces 15% dont tu viens de nous parler. Donc, si tu veux bien, on va aller dans les trois temps et on va commencer par l'avant. Je disais un petit peu pour blaguer, l'avant, c'est juste demander les objectifs des apprenants. Mais en fait, je sais que c'est beaucoup plus que ça. Je voudrais que tu nous listes un peu qu'est-ce qu'il y a dans cet avant, à quoi ça sert et pourquoi tu vas augmenter ces fameux 15%.
Ouais. Tout à fait. Et en fait, pour finir là-dessus, quand on avec l'approche en trois temps, on passe pas à 15, on n'est pas à 15% de transfert en situation de travail, mais on est à 85%.
D'accord.
Maintenant, je parle de l'avant. Donc, l'avant, qu'est-ce que c'est? C'est tout le temps où on va commencer à créer les conditions d'engagement pour les apprenants avant le début de la session. La recherche parle beaucoup du facteur de la motivation des apprenants. Ce temps d'avant, il va permettre de jouer sur la motivation. Et la motivation, c'est un des facteurs reconnus notamment par les études de Alice Godin en 97, je vous les mettrai en référence, et aussi les études de La Roche et Hakoun en 1999, où la motivation des apprenants, c'est un facteur clé pour le transfert des acquis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour venir augmenter cette motivation des apprenants avant la formation? deux terrains sur lesquels on va pouvoir aller jouer. D'abord, c'est travailler sur le marketing et la communication de la formation auprès des apprenants. Ensuite, ça va être impliquer les apprenants dans une démarche de préparation à la formation, notamment en utilisant la métacognition. Voilà, on pourra en reparler. Donc, premièrement, sur ce temps d'avant, pour travailler sur le marketing et la communication de la formation auprès des apprenants, on peut la construire à deux niveaux. Déjà au niveau micro, ce que j'appelle micro, c'est au niveau du marketing de chaque action de formation. Est-ce que pour chaque formation, on a réfléchi à un cours descriptif de la formation, des objectifs de formation concrets et clairs pour les apprenants? Par concret, j'entends des objectifs qui soient formulés en termes de comportement observable et mesurable en situation de travail. Est-ce que aussi on a un descriptif de la population cible qui est clair afin d'éviter des erreurs de casting? Et voilà, il y a plein d'autres petites choses à faire, mais déjà, ça, vous avez un premier panel. Et on peut aussi utiliser, pourquoi pas, la vidéo pour faire une promotion plus impactante d'un programme. Si on se place cette fois au niveau macro pour la communication et le marketing de formation, on va se demander, est-ce que on a réfléchi aux supports et aux canaux de communication via lesquels on va faire la promotion de notre offre, mais de notre offre dans sa globalité cette fois? Est-ce que les apprenants ils sont suffisamment exposés à l'offre de formation au niveau des fréquences de communication qu'ils reçoivent? Est-ce qu'au niveau des supports, on fonctionne plus sur des newsletters? Est-ce que c'est des newsletters tous les trimestres? Est-ce qu'on a des campagnes mail? Voilà, c'est des choses sur lesquelles il va falloir réfléchir. Si on a un LMS aussi, notamment dans les grands groupes, est-ce que l'interface elle est attractive pour l'apprenant? Est-ce qu'elle est facile d'utilisation? Et donc, du coup, est-ce qu'il aura envie d'y passer du temps, aller faire des recherches, recommander du contenu, un peu comme on pourrait le faire sur Netflix? Donc voilà, ça c'était sur la première façon d'améliorer la motivation des apprenants.
Là, tu parles sur le temps d'avant, tu parles beaucoup de motivation.
Ouais.
Et moi, d'habitude, je dis aussi que c'est un moment où on peut préparer à commencer à apprendre. Je me trompe si je dis ça?
Tu te trompes pas du tout, Olivier. C'est exactement ça. Avant la formation, on va aussi travailler pour venir responsabiliser les apprenants en les aidant pour se préparer, comme tu dis, du mieux possible à la formation. Et l'objectif, ça va être de les mettre en posture de réflexivité sur la formation qu'ils vont suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait mettre les apprenants dans une posture où ils vont prendre du recul, réfléchir sur les objectifs qu'ils ont avec la formation, pourquoi je viens assister à cette formation, et réfléchir aussi sur des situations de travail vécues en lien avec la formation. Donc, en tant, nous, que professionnels de formation, qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler les apprenants et les aider à cette préparation? Il y a des questions un peu fortes qu'on va pouvoir leur poser. Alors, je vous donne quelques exemples, hein. Ça peut être en quoi cette formation peut vous aider concrètement dans vos objectifs de carrière en ce moment. L'apprenant va pouvoir réfléchir à ça. En quoi cette formation fait écho à des situations de travail dans lesquelles vous avez ressenti un besoin de vous développer. Par exemple, prise de parole en public. Repensez à une situation dans laquelle vous avez un peu galéré à faire une présentation devant votre auditoire. Aller vers cette démarche, ça va vraiment permettre d'impliquer les apprenants. Et on ne va pas juste impliquer les apprenants, on va impliquer les apprenants et son manager. Parce que le manager, c'est un partenaire clé pour aider au transfert des acquis. Donc, en fait, tout simplement, recommander à nos apprenants de caler un court entretien avec leur manager avant la formation, où ils vont pouvoir discuter de finalement comment le manager pourra aider son collaborateur à mettre en pratique le contenu dans la durée. Et on va aussi demander à l'apprenant de reprendre rendez-vous avec son manager après la formation. C'est un peu dans la dynamique du 5-0-5, 5 minutes avant la formation, 0 minutes pendant la formation et 5 minutes après la formation avec le manager, pour qu'il puisse réfléchir cette fois, voilà, maintenant on fait un plan d'action ensemble et on réfléchit pour mettre en pratique.
Théo, j'ai bien compris le temps d'avant la formation, hein, c'est très clair. Bon, après l'avant, il y a le pendant. Et on a déjà un petit peu parlé au début du podcast parce qu'on s'est dit, finalement, est-ce que le pendant a toujours un sens avec toute cette information qui traîne partout et qu'on peut avoir? Donc, est-ce que ce temps du pendant, il a toujours un sens? Et quel sens il faut lui donner aujourd'hui?
Super question.
Et en plus, tu nous as dit, le pendant ne fait que 15%. Alors, je me dis,
là, Olivier, tu me provoques.
Je te provoque.
Ah là là. Bon, alors déjà, il faut pas prendre les études de manière trop schématique comme ça. S'il y a du transfert en situation de travail, c'est aussi parce qu'il y a le temps du pendant qui existe. Parce que voilà, même si le temps d'avant et le temps d'après sont réussis, si le temps pendant de la formation, il n'a pas été optimisé, il y a très peu de chances que derrière, les apprenants, ils aient envie d'aller plus loin et ils soient engagés pour transférer les acquis. Ça, je pense que c'est clé, ça le sera toujours. Et il y a Alain Ménian, donc un sociologue des organisations, qui en parle dans son livre. Et il dit justement que la qualité pédagogique du temps pendant la formation, donc son livre, c'est « Manager la formation », elle est clé pour assurer le transfert des acquis de la formation en situation de travail. Donc, ne pas enterrer tout de suite, ni trop vite, le temps pendant. Et sur ce temps du pendant, justement, il y a quelques pratiques qui sont éprouvées par la recherche et que le formateur peut implémenter, c'est un peu des quick wins, pendant la formation pour améliorer mécaniquement le transfert des acquis. Je vais vous en donner quelques-uns, parce que je pense que c'est intéressant pour nos auditeurs. Le premier, c'est au moment de l'intro de la formation, demander aux apprenants de verbaliser leurs attentes et les transformations qu'ils espèrent trouver une fois qu'ils seront revenus en situation de travail. Et si l'apprenant s'est bien préparé durant le temps d'avant, ça va se faire tout seul. Une deuxième pratique, ça semble évident, mais c'est favoriser une approche concrète au niveau de la pédagogie qui soit centrée sur la mise en pratique avec des exercices qui sont proches du contexte de travail de l'apprenant. Ça, c'est Jonathan Potier qui en parle, encore une fois. Et c'est important parce que ça va permettre de favoriser la ressemblance avec des situations de travail de l'apprenant et donc la cohérence pour aller transférer en situation de travail. Aussi, troisième pratique, faire vivre des expériences de succès aux apprenants. Donc ça peut être par exemple construire des exercices de difficulté graduelle au fil de la formation. On va commencer en jour 1 avec un exercice facile, ça met en confiance tout le monde. Et ensuite en jour 2, jour 3, on va aller vers une difficulté qui augmente progressivement. Ça va avoir un impact sur le transfert des acquis parce qu'en faisant ça, la recherche elle a montré qu'on travaillait sur le sentiment d'efficacité personnelle des apprenants. Et voilà, c'est un facteur clé reconnu par la recherche qui a un impact sur le transfert des acquis. Ça, c'est Laroche et Akoun qui en parlent.
Donc, si je résume ce que tu as dit, le présentiel, on ne le fait pas disparaître. Hein, il est important, il est même important pour l'efficacité du transfert des acquis. Mais ce présentiel, il n'est pas magistral, il est très orienté vers la pratique et la mise en confiance et finalement l'escalier pédagogique, c'est-à-dire qu'on commence par des choses simples, on va de plus en plus loin et finalement arriver à mettre les gens en confiance dans des pratiques qui vont se rapprocher de ce qu'ils vont vivre sur le terrain après. C'est un bon résumé ?
C'est un super résumé et j'ajouterais juste la dimension de l'intentionnalité des participants. En fait, sur le temps du pendant la formation, on va pouvoir déjà travailler sur l'intentionnalité à aller transférer les acquis en situation de travail des apprenants. Et là-dessus, on va pouvoir s'aider du fameux questionnaire de satisfaction qu'on pose aux apprenants en fin de session, notamment si on ajoute une question du type « Est-ce que je me sens en mesure d'appliquer ce que j'ai appris en formation dans mon travail ?» Noté de 1 à 10, totalement en désaccord à totalement d'accord. En faisant ça, on va déjà impliquer l'apprenant dans une démarche d'intentionnalité au transfert. Voilà sur le temps du pendant. Je pense qu'il y a déjà pas mal de petites choses et on l'a bien parcouru.
C'est intéressant cette question-là, justement. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps sur un questionnaire d'évaluation pour des formations que je fais. Et c'est la première fois que je le voyais. Et je regardais les résultats par rapport au sentiment de... Enfin, est-ce que globalement les participants étaient contents à la fin et satisfaits de la formation ? Ils étaient plutôt satisfaits. Mais il y avait une beaucoup moins bonne note sur la propension des gens justement à transférer et comme tu disais l'intentionnalité de tout ça là, de se dire bah est-ce que je suis capable de le faire demain dans mon quotidien, un peu moins quoi. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je m'étais jamais vraiment posé ces questions et ça rejoint complètement ça.
Parce qu'il y a des questionnaires de satisfaction aussi qui jouent pas, qui n'ont aucune question sur l'intentionnalité aussi. C'est juste, bah voilà, est-ce que tu as été satisfait ? Est-ce que le formateur était cool ?
Ah bah là, je te dis, c'est la première fois que je voyais ça.
Donc voilà.
Tu vois très rarement, je trouve.
Jonathan Potier en parle encore une fois et c'est super intéressant.
Alors après, avant, pendant, il en reste un, c'est après.
C'est après. Effectivement.
Alors, juste l'après, avant que tu commences, c'est pas quelque chose qui est très facile à mettre en place. Est-ce que c'est parce que ça coûte de l'argent ? Est-ce qu'on arrive à convaincre qu'il faut investir là-dedans ? Et est-ce que c'est facile à mettre en place de continuer à garder contact avec tes apprenants pour être plus efficace ? Moi, je rencontre des problèmes face à ça, ça m'intéresse.
Ou est-ce que c'est parce que les apprenants ont l'habitude d'avoir des temps de formation qui sont des temps, t'arrives à 9h, tu pars à 17h, et une fois que t'as fini et t'as fermé ta porte à 17h, la formation est terminée. Et du coup, c'est très compliqué d'aller les réengager. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette facette-là ? Je me pose la question.
Ça dépend de l'histoire qu'on raconte derrière, en fait. Si on commence dès notre mail d'invitation aux apprenants à leur dire qu'il y aura ce temps d'après, que voilà, pour pratiquer, on peut leur ressortir l'étude de notre bon vieux Robert, il faut aller mettre en pratique et travailler le temps d'après. Peut-être que ça va en éveiller certains, alors pas tous, mais certains, et qui vont commencer à être engagés dans cette pratique, ils vont comprendre que c'est important
Ouais.
de travailler le temps d'après. Ça, c'est au niveau de l'histoire un peu qu'on va leur raconter. Et moi, j'ai repéré plusieurs pratiques qui ont un impact avéré sur le transfert des apprentissages sur ce temps d'après la formation. Une première pratique, c'est construire un module ou fiche TEP, TEP pour transfert à l'environnement pratique. C'est une préconisation, ça, de Laroche et Acoun dans leur article de 99, encore lui.
C'est quoi Théo, une
Ouais.
Comment tu peux expliquer cette fiche TEP là? C'est quoi comment tu nous l'expliques? C'est quoi? C'est un cas? C'est un exercice? C'est quoi?
Ça peut soit être un module à part entière d'animation après la formation, soit une fiche, c'est plus simple à déployer. Donc on va remettre aux apprenants après la formation, on va leur présenter en fait des grilles d'auto-évaluation pour que les apprenants ils puissent étudier comment ils progressent, comment leur comportement évolue et qu'est-ce qu'ils mettent en place pour y arriver après la formation. En fait, ça rejoint aussi un peu ce qu'on pourrait appeler les fiches challenge. Donc c'est-à-dire qu'on propose aux apprenants sur la fiche un certain nombre de défis qu'ils vont pouvoir aller mettre en place après la formation. Et ces défis, c'est vraiment des comportements en situation de travail. Donc s'ils les font, ils pratiquent et ils transfèrent. Ça, c'était la première pratique sur le temps d'après. J'en vois une deuxième qui est intéressante aussi et qui fonctionne bien, c'est la curation de contenu. Et curation de contenu, en fait, dans le sens où on va sélectionner tout un ensemble de contenus, ça peut être des capsules vidéo, des textes, des e-learning, des MOOC, notamment quand on a un grand groupe et qu'on a des contenus type LinkedIn Learning, Coursera. Et ces contenus, ils vont être en lien avec la formation qu'a suivi l'apprenant. Ça leur donne l'opportunité, en fait, de maintenir la dynamique d'apprentissage dans la durée. Ça leur permet d'aller plus loin et ça leur permet de combattre la courbe de l'oubli. Courbe de l'oubli, c'est la recherche. Hermann Ebbinghaus. Voilà. Qu'est-ce que c'est la courbe de l'oubli? Ça, c'est une courbe qui met en évidence la déperdition de la mémorisation d'une information avec le temps. Et donc, sachant ça, Ebbinghaus, il nous dit que pour ancrer un apprentissage dans la durée, il faut faire des rappels réguliers et des rappels espacés dans le temps. Donc, en expliquant l'histoire comme ça aux apprenants après la formation, je ne dis pas qu'on va leur faire peur, mais voilà, on peut les engager avec ce discours pour qu'ils aillent réactiver les apprentissages dans la durée avec ces contenus. Ils peuvent le faire avec leur père, avec les autres participants de la formation, et ça marche assez bien.
Théo, moi par exemple, quelquefois, je fais des after-work avec
Ouais.
mes apprenants, c'est-à-dire que je les rassemble tous les 3 mois. Alors, ouais, des after-work, il y a Clément qui me fait des signes. Des after-work en ligne, Clément. Mais on se retrouve ensemble et on discute un petit peu comme au café. Est-ce que ça fait partie de l'après?
Carrément, c'est ce qu'on appelle en fait dans la recherche les rencontres post-formatives. Mais on peut aussi appeler ça, tu peux appeler ça after work si tu veux, Olivier. Et en fait, l'idée, voilà, c'est comme tu as dit, hein, c'est des réunions de discussion entre les apprenants et le responsable formation. Ça peut durer 40 minutes, 1 heure grand max, hein. Mais en tout cas, dans ces rencontres post-formation, on va rassembler tous les apprenants et on va les guider dans les échanges pour amener la discussion sur non plus la satisfaction, mais l'impact de la formation. C'est-à-dire, bah, est-ce que vous avez pu mettre en pratique les apports de la formation? Ça, il faut le faire 1 mois et demi, 2 mois après la formation, je dirais. Ça donne le temps aux apprenants d'aller mettre en pratique. Si vous avez réussi à mettre en pratique, qu'est-ce qui a fonctionné? Si ça n'a pas été le cas, quels ont été les freins rencontrés? Donc, là, en faisant ça, on va venir améliorer le soutien perçu des apprenants. Et le soutien perçu, c'est encore un des facteurs identifiés par la recherche qui a un impact sur le transfert des acquis.
Hey Théo, j'ai envie que tu restes dans la jungle en fait.
Ouais, on n'a pas eu le temps passé.
Mais on arrive un peu au bout. J'ai quand même envie de te poser une dernière question, Théo.
Ouais, Olivier, avec plaisir.
Et le digital dans tout ça? Parce qu'on n'a pas parlé digital et tu sais que c'est rendez-vous interdigital, donc nous, la jungle, elle est
Bah
un peu
oui.
digitale. Est-ce que le digital, finalement, alors attention, hein, tu vas devoir être court.
Ah
Est-ce que
là
le
là, tu as 30
digital,
secondes.
ouais, ah là là, parce qu'on est-ce que le digital apporte quand même un plus dans ces 3 temps, l'avant, pendant, après, ou bien non? Est-ce qu'il y a
Alors,
des outils
ouais.
ou est-ce que le digital apporte un plus dans ces 3 temps?
Alors oui et non. Oui, pourquoi? Parce que bah, bien évidemment, le digital, je vais vous expliquer pourquoi je dis non aussi. Dans une vraie logique de parcours de blended learning, le digital, il va permettre de créer des moments asynchrones pour l'apprenant. Et dans notre approche formation en trois temps, en faisant ça, en misant sur l'asynchrone, on va pouvoir responsabiliser les apprenants parce que voilà, on va leur donner du contenu, des opportunités pour réfléchir avant la formation, mais aussi après la formation. Et ça va, on va faire ça en fait en respectant les rythmes d'apprentissage préférentiels des apprenants. Donc on est déjà un peu grâce au digital sur une forme de solution learning sur mesure. Donc ça c'est super et le digital c'est un vrai facilitateur et quelque chose qui va fluidifier tout ça. Ensuite, j'ai envie de dire,
t'as dit non
bah, j'ai
aussi.
Dit non et je vais vous expliquer pourquoi. Non, dans le sens où il peut y avoir un certain nombre de fausses bonnes idées avec le digital, selon moi, dans cette approche formation en trois temps. En fait, j'ai tendance à penser que le digital, les outils, ça ne remplace pas les usages. Il faut d'abord commencer par être au clair sur les usages qu'on veut pour nos apprenants avant d'aller chercher à tout prix le dernier outil numérique un peu clinquant. Et donc, tout simplement, hein, si on veut, comme je disais, inciter les apprenants après la formation à rester en contact, à pratiquer ensemble, bah, on ne va peut-être pas avoir besoin d'investir tout de suite dans une plateforme d'apprentissage par les pairs coûteuse. On va, et c'est même mieux, d'utiliser des outils que les outils digitaux que les apprenants y maîtrisent déjà. Je pense à Teams, à Zoom, Slack, voilà. Et en faisant ça, en fait, on ne va pas créer de complexité additionnelle et on n'aura pas de souci à avoir pour l'adoption de l'outil par l'apprenant. Ça rejoint un peu la logique de l'innovation frugale, c'est-à-dire faire un peu en low-tech de manière simple et efficiente en utilisant le minimum de moyens, mais pour arriver à un maximum de résultats tout de suite, un peu en test.
C'est l'époque, quoi.
Comment ?
C'est d'époque sur des outils que les apprenants connaissent pour faire en sorte que ça...
Ouais, exactement.
Pour d'une part, que les départements L&D puissent étudier finalement ce qui se passe, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, et puis d'autre part, pour voir... Comment les apprenants aussi s'approprient ces nouveaux concepts-là, je trouve. C'est super intéressant.
J'ai peut-être une dernière nuance à apporter là-dessus aussi, et ça va être très courtois, Olivier, qui commence à sourire.
Il n'a plus de place
voilà,
sur sa carte.
Je veux nuancer parce qu'il y a un cas qui est un peu particulier. C'est dans le cas où une entreprise lancerait un outil d'envergure, par exemple voilà, une nouvelle plateforme LXP, donc la version améliorée des LMS. Si l'entreprise lance un LXP et qu'il veut faire la promotion d'une interface d'apprentissage par les pairs, dans le cas, ça vaut le coup, je pense, de pousser ce nouvel outil qui est nouveau pour les apprenants. Pourquoi ? Parce qu'il aura vocation à être utilisé dans la durée. Et donc, dans ce cas, ça vaut le coup de faire la promotion de ce nouvel outil et de miser sur une conduite de changement. Parce que là, voilà, c'est un outil qui aura vocation à être utilisé par tout le monde et pas juste une petite population pour le test. Voilà la nuance que je voulais apporter.
Merci Théo. Je sais pas si tu vois, mais la nuit est tombée dans la jungle.
On est dans la jungle de
non,
nuit.
Non, je rigole. on arrive vraiment au bout là. Je vais quand même être très sincère avec toi, Théo. Je pense que c'est un des plus beaux podcasts que j'ai enregistré depuis 3 ans qu'on fait l'émission, et je le pense vraiment. Parce que les concepts dont tu as parlé, alors le APA, avant, pendant, après, les usages avant les outils, alors tu le dis avec tes mots, et beaucoup plus documenté que ce que je dis, mais moi j'y tiens beaucoup, et en fait j'ai appris beaucoup, et je vais rediffuser ça beaucoup, et je peux te promettre que ton podcast va avoir beaucoup de succès, parce que je vais l'imposer à tous les gens qui vont rentrer en formation avec moi, et j'en fais beaucoup des formations. Parce que je pense que le modèle n'a
ouais,
pas tout le monde en parle, mais là tu as montré qu'il y avait beaucoup de science derrière tout ça,
ouais.
Et franchement, c'est un des plus beaux podcasts que j'ai fait depuis 3 ans. Je sais pas, Clément, ce que tu en penses.
Non, mais je suis complètement d'accord. En fait, bon, on en a parlé déjà dès le départ du podcast en se disant que rajouter ces analyses et ces recherches scientifiques sur des choses qu'on dit tout le temps, bah, ça appuie forcément le discours. Mais je trouve aussi que tu as apporté des tips, des trucs et astuces qu'on peut facilement mettre en place. Tu vois, le truc dans l'enquête de satisfaction, le fait de l'intentionnalité et tout ça, de mettre les apprenants dans une démarche déjà de comment je vais faire pour transférer ces acquis. Mais moi, je trouve ça, en fait, c'est passionnant. C'est des trucs, quand tu les racontes, ça paraît tout bête quand on t'écoute, parce qu'en plus, c'est bien dit, mais qu'on met pas forcément en place. Et voilà, on en ressort avec des formations, comme dirait Robert, à 15%, et c'est dommage. Alors qu'avec des petits trucs, je pense qu'on peut monter à plus haut.
Ça veut dire que les OF qui ne font que du pendant, bah, il va falloir changer, mais rapidement, là, en fait. Hein.
C'est-à-dire qu'il y a un gros besoin d'accompagnement, peut-être.
Je tenais à vous remercier aussi, Olivier, Clément, parce que bah, vous m'avez donné l'opportunité de faire ça à vos micros, et j'ai passé un super moment Alors déjà, à préparer tout ça.
Et Dieu sait si t'as préparé. Hein,
ouais,
Théo,
parce que c'est important,
ouais.
En fait.
Ouais, disons, on n'a jamais vu ça.
On n'a jamais vu ça, ouais.
Ah non, mais c'était bien préparé.
Le résultat, il est là. Enfin, franchement, ouais, merci, un grand merci.
Ah ben, merci à vous. Et quand vous voulez, à nouveau, en tout cas.
Eh bien, écoute,
avec grand plaisir.
On va te prendre au mot et on va préparer un autre sujet,
ouais,
d'accord,
clairement.
On va travailler dessus.
Un truc dont il faut que je te parle, mais on en parle. Mais il faut qu'on parle de quelque chose. En tout cas, merci Théo d'être venu
à
nos micros.
Vous.
Merci Olivier pour toutes ces questions passionnantes autour de ces sujets.
Merci à toi Clément de faire le montage parce qu'il va être challenging celui-là.
Bon, challenging, non, mais intéressant de réécouter ce qui a été dit. Donc, non, ça va. Je pense que j'ai connu Pierre. J'ai connu Pierre, ouais. Des trucs enregistrés sur téléphone portable, par exemple. Oh, pardon. Je l'ai dit à voix haute. Bref, merci en tout cas à tous les deux. Merci Olivier. Et puis, merci à toutes et tous de nous être fidèles. On se retrouve comme d'habitude, hein, lundi prochain pour un nouveau podcast. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Twitter. Enfin, X maintenant. Et puis, à très bientôt pour de nouveaux outils et de nouvelles sessions des voix du Digital Learning. Salut Théo. Salut Olivier.
Salut,
merci beaucoup Théo.
Merci à vous.
À bientôt, promis.
À bientôt.